Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Cabane, le podcast où on parle de tout et de rien. La semaine dernière, on a fait un épisode avec Juliette qui était à propos de tout ce qui était les questions de dating. On a beaucoup parlé et on a en fait balancé un peu des questions à droite à gauche sans vraiment approfondir les sujets et c'est vrai que l'épisode était assez court. C'est pour ça que maintenant, une semaine après, je reviens justement pour approfondir à l'un des points que nous avons abordés. Parce que évidemment, ça trottait dans ma tête, évidemment, j'en ai parlé avec des gens et je me suis dit, bon, il y a des choses à faire, il y a des recherches à faire, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Si tout ce qui est autour du sujet de l'amour, des relations, du dating t'intéresse et que tu as écouté peut-être l'épisode précédent et que tu t'es dit, ah tiens, c'est cool, mais j'aurais aimé en savoir plus, eh bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cet épisode. Donc tiens-toi prêt, prends ta petite tasse de café, et c'est parti, on va parler amour et dating. S'il y a bien quelque chose dans la vie, moi, qui me perturbe énormément, c'est de ne pas comprendre. Alors, quand je dis pas comprendre, c'est surtout dans le comportement humain, parce que je suis très habituée, généralement, à être assez empathique, et même quand je suis pas dans la position de l'autre personne, à réussir à me mettre plus ou moins dans sa position et me dire, bon, dans telle situation, je me sentirais comme ça, et du coup, de comprendre plus ou moins la personne. Ce qui fait que quand je comprends pas un comportement, un sentiment, une personne, je suis frustrée au possible et bien évidemment je cherche à la comprendre après en faisant des recherches en lui demandant directement. Alors évidemment quand on parle d'émotions, de sentiments et encore plus de relations, vous doutez bien que c'est un peu compliqué parce que tu peux demander à des gens « Mais pourquoi ça fait 50 ans que tu es avec machin? Pourquoi tu aimes Marie-Laure? Pourquoi tu es avec Bernard ?» Personne va te donner une vraie explication, enfin il n'y a pas vraiment un raisonnement scientifique derrière, ils vont te dire bon bah parce que Bernard c'était le plus bel homme des pompiers, et puis voilà ça fait 30 ans qu'on est ensemble maintenant, c'est super hein, c'est super, très bien, mais moi ce que je cherche derrière c'est à comprendre le pourquoi du comment, mais surtout le pourquoi du comment raisonner, et c'est quelque chose qui est assez compliqué quand on parle d'émotions, de sentiments. C'est que c'est vrai que très rarement quelqu'un va te dire « Oui, ben moi je suis tombée amoureuse parce que j'ai senti mon pic d'hormones. » Non, personne ne te répond ça, personne ne te répond premier degré. Parce que bien évidemment, comme beaucoup de personnes, je me pose la question de pourquoi, que ça soit tomber amoureuse ou juste avoir un flirt, un désir, une envie pour quelqu'un, tu te dis pourquoi cette personne-là et pas une autre. Parce que on est quand même d'accord pour dire que même si on ne parle pas d'une relation stable, juste d'un goût d'un soir, il y a des gens tu vas te dire « Lui, oui. » Et de gens, tu vas te le dire, lui, non. Mais pourquoi? Parce que au final, enfin vraiment, théoriquement, si tu prends quelqu'un qui, admettons, t'es hétéro, t'es une femme, tu prends un mec, théoriquement, tous les mecs peuvent faire l'affaire. Si ce que tu veux faire, c'est, voilà, une petite nuit, comme ça, sympa. Mais pourtant, tu vas pas le faire avec n'importe qui, parce qu'il y a des facteurs derrière, et ces facteurs s'expliquent par des raisons, mais qui sont elles-mêmes pas explicables, parce que le truc de se dire, lui, je trouve beau, lui, je trouve attirant, mais pourquoi lui, tu le trouves beau, et pourquoi lui, tu le trouves attirant? Et surtout que c'est quelque chose d'hyper subjectif, et que si toi tu te dis lui il est grave beau, peut-être que ta pote elle va le trouver grave moche, mais encore une fois pourquoi? Pourquoi elle le trouverait beau et toi tu le trouverais moche? Parce que dans un tout autre registre, je me suis posé une question qui a beaucoup moins d'importance et qui est beaucoup moins intéressante, mais je me suis dit mais pourquoi par exemple j'aime autant le houmous et quelqu'un d'autre n'aime pas le houmous? Je veux dire, quelle partie de mon cerveau, quelle partie de, je sais pas, de mes papilles, de mon fonctionnement cognitif fait que moi j'aime le houmous et pas la voisine? Mais heureusement pour nous, il y a eu des études scientifiques et des explications quant à notre fonctionnement de pensée, nos hormones, etc. Tout ce qui va s'en suivre est plus ou moins une explication dans le cadre de pourquoi on tombe amoureux, pourquoi on part vers une relation stable, vers quelqu'un. Donc là vraiment, c'est pas du tout ce que j'ai cité auparavant, on parle pas de plein de cul, on parle pas de choses à court terme, là c'est vraiment l'explication du sentiment de tomber amoureux. On peut donc séparer le sentiment amoureux en trois catégories, enfin en trois explications. Donc tout ça a été fait par une étude, par un docteur qui s'appelle Hélène Fischer. Les trois parties sont le désir, l'attirance physique et l'attachement. C'est pour ça que je vous dis que, en gros, la combinaison des trois, on part sur quelque chose du sentiment amoureux et que, évidemment, si vous n'avez pas ces trois-là, généralement, vous tournez plus vers quelque chose à court terme. C'est-à-dire, s'il n'y a que l'attirance physique, bon, je vais pas vous faire un dessin, on sait pourquoi on est là. S'il y a que de l'attachement, c'est peut-être parce que vous êtes dans une période seule de votre vie, etc. Mais vous n'avez pas tous les paramètres qui vont faire que vous allez tomber amoureux. Et s'il y a que du désir, Bon voilà, il manque encore des petits éléments pour vouloir quelque chose sur le long terme avec cette personne. Concernant le désir, pour les hormones, on est sur œstrogène, testostérone, donc c'est un peu les grandes classiques que tout le monde apprend à l'école. Même si, là tu te dis testostérone c'est les mecs, œstrogène c'est les meufs, pas exactement. Il y a un peu des deux dans chacun. Pour l'attirance physique, on est sur la dopamine, la sérotonine et la noradrénaline. Bon, on aurait pu faire un peu plus simple, mais on va faire avec. Et finalement, pour l'attachement, là, c'est les deux, on va dire, un peu les moins connus. Et encore, c'est l'ocytocine et la vasopressine. Si je devais te décrire le désir, c'est vraiment... Faut penser, désir, c'est vraiment le truc naturel. C'est vraiment le truc, on va dire, qui est un peu resté de l'instinct animal. Je sais même pas si c'est le bon terme, instinct animal, oubliez ce que je viens de dire. C'est le besoin de se reproduire. Donc, désir, besoin de se reproduire... Bien sûr, le besoin, c'est avec des gros guillemets, hein, puis personne n'a vraiment besoin de se reproduire actuellement. Et c'est pour ça que, bon bah voilà, c'est un peu dans le comportement humain de t'as des petites périodes comme ça, ou t'as des envies un peu plus prenantes que d'autres. La dopamine, je pense que la dopamine, c'est celle qui est la plus connue, c'est l'hormone du plaisir, et c'est la fameuse, on a tout vu des vidéos, petite détox dopamine, je lâche mon téléphone pour puis avoir le dopamine boost. Voilà, la dopamine, c'est assez connu. Pour être une hormone qui est libérée à chaque fois qu'il y a un petit truc sympa, genre, et surtout généralement gratifiant et qui est rapide. Notamment, t'es là sur ton. T'es sur Tinder, tu swipes, t'as un match, hop, dopamine, t'es content, t'as été validé physiquement, ça fait plaisir. Et évidemment, c'est une hormone qui va être libérée à chaque fois que tu vois ton partenaire, que t'as des relations sexuelles. Enfin, t'as compris, que tu veux quelqu'un que tu aimes bien et avec qui, au final, ça se passe bien. T'as un petit boost, t'es là en mode. Oh, mais trop bien cette sensation, j'ai envie de revoir la personne. Là où je trouve que c'est assez intéressant et assez drôle, c'est quand on parle d'attirance physique, en fait la sérotonine, elle va baisser. Et quand la sérotonine va baisser, ça va faire, parce qu'en fait de base c'est quand même une hormone qui régule l'humeur, qui aide on va dire aussi à réguler ton cycle du sommeil et ton appétit. Donc grosso modo c'est plutôt utile. Et vu que là, quand t'es attiré par quelqu'un, elle baisse, ça fait que des fois tu peux avoir des comportements où, bah, dans cette phase un peu attirance physique où t'es à fond et tout, tu sais, lune de miel, ça va créer des petites insomnies, tu auras moins faim, et genre vraiment je trouve ça ouf de se dire que juste parce que quelqu'un te plaît physiquement, il y a ce truc qui se passe et qui fait que peut-être tu vas moins dormir ou moins manger. Et j'avoue, c'est un truc sur lequel j'avais jamais trop réfléchi, mais avec du recul, j'ai réalisé quelque chose quand même, c'est que quand j'étais en Angleterre, du coup, j'en ai un peu déjà parlé de cette histoire. Mais bon, là, on n'est pas là pour raconter l'histoire, mais on va dire un peu plus le sentiment. Quand je voyais ce fameux garçon, j'avais... Enfin, en fait, souvent, on se voyait le soir, hein, parce qu'évidemment, comme tout le monde, on a des activités la journée. Faut savoir. Comment dire, je vais pas dire hyper chiante, mais moi, limite, tu me laisserais le choix, je serais vraiment en mode petit-déj, snack, lunch, le goûter, limite l'apéro, le repas. Enfin bref, je mange pas énormément, mais j'aime bien manger souvent. Et c'est vrai que souvent, avant d'arriver dans, je sais pas, une soirée, une fête, un date ou quoi, je me dis... Enfin, je pense à l'aspect nourriture. Je me dis, est-ce que... Je sais pas, enfin, j'ai toujours peur de me dire, ouais, mais attends, là, si j'ai faim et tout, et qu'il y a rien, parce qu'en plus, je suis vegan, c'est relou, c'est chiant et tout. Et au final, je me suis rendu compte que avec ce bonhomme, des fois, juste, il venait, et normalement, bon, bah, voilà, tu vois, je veux dire, mon corps est plus ou moins réglé, je sais que vers telle heure, j'ai faim. Et là, quand j'étais avec lui, c'est vrai que je n'avais pas faim. Et c'est même pas le fait d'avoir bu ou quoi, c'était juste, il y avait rien, enfin je veux dire, on n'avait pas spécialement bu, rien du tout, mais juste, en fait on parlait, et on était tellement, enfin j'étais tellement à fond, et tellement, je sais pas, dans le truc, que vraiment, à 22-23 heures, on n'avait pas encore mangé le repas du soir, et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Vraiment, ça n'arrive jamais, ça, normalement, vraiment, limite, j'aurais pu oublier de manger. Et vraiment, j'étais, c'est assez drôle de voir ça comme ça. Ça m'a jamais empêché de dormir, enfin en tout cas, pas quand j'étais avec la personne. Et d'ailleurs, ça, il y a d'autres choses, mais bon, c'est plus des théories que j'ai vues sur TikTok, donc est-ce que je les cite ou pas, je ne sais pas. Mais c'est plus cette idée de se dire, qui disait, quand tu es théoriquement, entre gros guillemets, la bonne personne, enfin, en tout cas une personne, on va dire, avec qui tu te sens bien, etc., normalement, tu t'endors assez facilement. Et à l'inverse, quand t'as des, je sais pas, des maux de ventre, que t'arrives pas à dormir, etc., c'est des fois un peu l'inversement, où ton corps te dit, hé frérot, peut-être que cette personne est pas si cool que ça. Et c'est vrai que ça, en revanche... Le nombre de témoignages que j'ai vus de gens qui disaient « Ah mais je comprenais pas, j'avais des maux de tête, des trucs, des machins et tout quand j'étais avec mon ex, et après on s'est séparés et d'un coup ça s'est arrêté, t'es genre ah. Moi je trouve ça, le corps humain, moi je trouve ça fascinant, mais on est en train de s'égarer, donc on va reprendre nos points. Et enfin, en termes d'hormones, on a l'ocytocine. Alors celle-ci, elle est assez fun à raconter. Je sais pas, un petit fun fact, donc moi j'avais envie de vous le poser là. Mais en fait, c'est une hormone qui est donc libérée en grande quantité, donc après une relation sexuelle, soit, mais, enfin aussi pendant d'ailleurs, mais aussi pendant l'allaitement et après l'accouchement. Et c'est ça que j'ai trouvé hyper drôle, c'est de me dire, mais attends, excuse-moi, mais pourquoi cette hormone-là est sécrétée à ces trois moments-là? Parce que entre un rapport sexuel, un accouchement et l'allaitement, on est quand même sur trois choses bien distinctes. On n'est pas sur les mêmes types d'activités. Mais en fait, ça s'explique quand même, hein, parce qu'il y a une logique derrière le bordel. C'est que, en fait, à chaque fois, enfin, ces trois actions-là, en fait, sont un peu la première étape avant de créer un lien. Donc forcément, bon, t'allaites, hein, tu fais un lien avec le gosse, on est assez d'accord là-dessus. Bon, l'accouchement, clairement, il y a un petit lien qui se crée. Littéralement, il y a un lien entre la mère et l'enfant, hein, vu qu'il y a littéralement un cordon entre les deux. Rapport sexuel, bon, je pense qu'on n'a pas tous besoin de dessin. Il y a aussi un petit lien qui se crée entre les deux individus. Parce que c'est ça que je vous disais au début, c'est pourquoi il y a des choses qui font qu'on serait attiré par quelqu'un et pas une autre. Il y a des raisons, il y a des explications. Bon, déjà, il y a le visage, enfin, la construction de ton visage. Et ce truc de se dire, si ton visage est symétrique, généralement, t'as plus de chances d'être attirant parce que c'est pas vraiment une question de standard de beauté, mais c'est plus un raisonnement de survie, un petit peu, de se dire, normalement, si t'es symétrique, c'est un peu plus assimilé intérieurement à une personne en bonne santé. Encore une fois, par rapport à ce qu'on a dit avant, mais vu que le but, normalement, de base, c'est de se reproduire, bah forcément, t'essayes de te reproduire avec des gens bah, qui sont en bonne santé ou théoriquement qui ont de l'argent, enfin, bon, bref, en gros, un parti gagnant. Mais là où la symétrie du visage reste, je trouve, assez logique et de toute façon assez visible, il y a un autre facteur qui joue, et celui-ci vraiment je trouve ça ouf, mais c'est l'odeur. Alors là vous allez me dire, mais évidemment on veut pas quelqu'un qui pue, alors oui, mais là c'est un peu autre, c'est un autre niveau, c'est un niveau de complexitude fois 1000. Il y a eu une expérience, une étude sur je ne sais plus combien de personnes, mais en fait c'est très bizarre à raconter comme étude, mais on va dire que c'est pas bizarre. En fait les gens ont fait sentir des t-shirts d'hommes à des femmes. Donc ces t-shirts ont été portés par plusieurs hommes, et donc on demandait aux femmes quel t-shirt ils préféraient en termes d'odeur. Les résultats ont montré, sachant que bon, un t-shirt t'as aucune marque physique, tu vois, genre tu sais pas qui est qui, que les t-shirts préférés c'était toujours les t-shirts d'hommes qui avaient l'odeur d'un mec qui avait des gènes qui résistaient beaucoup plus aux maladies. Dans la logique, je comprends d'où ça vient et de se dire que tu recherches quelqu'un qui résiste aux maladies, mais de me dire que inconsciemment tu arrives à préférer l'odeur de quelqu'un qui est résistant aux maladies, et en plus que vraiment, enfin genre que ça a une odeur en fait, tout simplement, je me dis mais c'est ouf. Une autre statistique, parce qu'en fait dans l'épisode de la semaine dernière, j'avais posé la question à Juliette, est-ce qu'elle pensait que c'était mieux les opposés s'attirent ou qui se ressemblent s'assemblent? Et je suis tombée sur une étude qui a été faite sur 1523 couples. C'est le chiffre le plus random de toute la planète, je pense. Mais en gros, sur ce nombre-là de couples, à 86%, ce qui est quand même énorme de façon majoritaire, eh bien, ces personnes avaient des personnalités similaires. Donc je pense qu'on peut dire, du coup, qu'on penche plus sur qui se ressemble, s'assemble, que l'inverse. Et encore une fois, je pense que ça fait du sens quand on parle de grosses lignes, enfin, encore une fois, de façon de communiquer, de voir la vie, et peut-être de, ben pareil, de, peut-être d'un point de vue politique ou d'un point de vue religieux, si vous commencez à avoir des choses qui divergent trop sur des gros axes comme ça, c'est, je pense que c'est clair que ça va être délicat, même si je pense que c'est pas impossible, mais c'est délicat. Je reste quand même sur mon idée de les opposés s'attirent, mais après, il y a opposé. C'est comme tout, c'est comme enemies to lovers dans les livres, quand t'es vraiment ennemi, ok, c'est pas ouf, mais si c'est genre un peu, vous savez, un peu des malentendus, et en fait ça se complète de ouf, je trouve ça beau aussi. Une autre des questions, donc, sur laquelle on avait un peu parlé avec Juliette, c'était la question du premier amour et de est-ce qu'on peut rester avec cette personne toute notre vie et au final être heureux à la fin. Alors, j'ai pas vu énormément de données, de retours là-dessus, mais je suis tombée, parce que vraiment, et je vous jure, hier, quand je l'ai lu, ce truc Reddit, j'aurais pu chialer, j'étais là, mais J'étais à fond dedans. Pour ceux qui ne savent pas comment marche Reddit, c'est vraiment l'endroit, je trouve, le plus merveilleux du monde. C'est un peu comme une sorte de forum où des gens exposent leurs problèmes ou juste posent un truc et des gens peuvent répondre de façon totalement anonyme. C'est vieux, t'as des réponses. Ce que je disais hier, ça datait d'il y a 11 ans. Et ce que je trouve encore mieux et plus beau, c'est que des fois, des gens répondaient avec 2 ans d'écart et faisaient des updates sur leur vie. C'était incroyable. Et donc, en fait, moi, j'étais tombée sur un gars qui avait 19 ans et qui avait fait un post en disant « Oui, bah voilà, là, je suis avec ma meuf et tout. » Mais je sais pas, enfin, j'hésite à rester avec parce que je me dis « Là, ça se passe bien, mais je suis jeune et si on se pose maintenant, j'ai peur que dans 10 ans, on soit marié, enfant et tout, et que je regrette, mais qu'à ce moment-là, je puisse pas vraiment partir parce que, ben, voilà, ça sera trop acté, il y aura déjà des enfants, on sera engagé, etc. » Et déjà, j'ai trouvé ça hyper fun de me dire « Attendez, là, ce bonhomme, il a 19 ans, ce qui est quand même relativement très jeune hein, dans les relations. » Et de se dire « Tiens, je vais écrire ça sur Reddit pour demander l'avis des gens. » Sachant qu'il faut quand même remettre dans le contexte que c'était il y a 11 ans. Donc, il y a 11 ans, on était en genre 2013, si mes calculs sont plus ou moins bons. C'est pas hyper vieux, hein, on était quand même dans l'âge moderne. Mais quand même, je me dis à 19 ans, en 2013, il y a un gars là, comme ça, il s'est dit « Tiens, je vais demander aux gens ce que je vais faire. » Et donc, ça s'est suivi de plein de témoignages de gens qui parlaient de leur premier amour. Parce que c'était ça, en fait. C'était que lui, le mec, disait « Voilà, c'est mon premier amour. Est-ce que vraiment ça veut dire que c'est la femme de ma vie? Est-ce que oui, est-ce que non ?» Et donc, voilà. D'où le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure. Et rapidement, parce que c'est moi qui fais les statistiques, oui. Donc, elles sont un peu sorties de mon chapeau, mais pas vraiment. C'est que pour avoir lu une bonne partie du fil Reddit, hein, vraiment... Alors j'ai écrit 9 fois sur 10, je pense que plus je m'éloignais et plus ça changeait un peu, donc je dirais peut-être 8 fois sur 10, mais 8 fois sur 10, les gens de tout genre, de tout âge, de toute expérience, on va dire, à travers leurs témoignages et ce qui en ressortait, étaient quand même d'accord pour dire qu'ils étaient contents de ne plus être avec leur premier amour et que avec du recul maintenant, objectivement, ils n'auraient pas pu être ensemble sur le long terme. Et qui sont beaucoup mieux avec la personne avec qui ils sont aujourd'hui. C'était des gens qui racontaient que globalement, ils étaient contents parce que déjà, ils étaient hyper jeunes quand c'est arrivé et que soit ils n'étaient pas assez matures ou soit ils avaient eu tendance, vu qu'ils étaient jeunes, à avoir un peu des œillères et à ne pas voir que la relation était mauvaise, toxique, etc. etc. Et aussi, ils racontaient qu'au final, après chaque relation, même s'il n'y avait pas vraiment de point d'ancrage et se dire lui est meilleur que l'autre, en fait, à chaque relation, ils grandissaient, ils apprenaient des choses et que clairement, ils n'auraient pas pu être dans une aussi bonne relation aujourd'hui sans toutes ces expériences et que clairement, c'est pas au premier amour que t'arrives avec toutes ces, on va dire, ces idées et ces, je sais pas, cette évolution qui a fait qu'aujourd'hui, t'arrives à communiquer, à être bien dans quelque chose et à savoir ce que tu veux aussi. Et la seconde idée qui revenait souvent aussi, c'est se dire que le premier amour, souvent, c'est la première fois que t'aimes, du coup, tu découvres le sentiment et tu sais pas vraiment ce que c'est le vrai amour, c'est plus cette idée de se dire là, il y a quelque chose de fort, mais tu sais pas vraiment si c'est de l'amour-amour ou si c'est juste toi qui es content d'à côté de soit de rentrer dans les cases de la société ou juste d'être un peu validé extérieurement. Parce qu'en fait, ce qui revenait aussi beaucoup, c'est que le premier amour, vu que c'est tellement énorme et que c'est la première fois, ça laisse un impact sur ton cerveau qui généralement reste toute ta vie. C'est pour ça qu'il y a encore un grand nombre de personnes qui n'arrivent pas à passer outre, qui n'arrivent pas à passer cette idée du premier amour et qui, des années après, sont encore en mode convaincus, dur comme faire que c'était la personne de leur vie, qui sont passés à côté de quelque chose. Pour moi, la réponse, clairement, est non, hein, vraiment, parce que pour moi, si 30 ans après, t'y penses encore, mais t'es pas avec la personne, que la personne t'a pas recontacté, qu'elle est pas dans ta vie, bah c'est pas la femme de ta vie, parce qu'il y a un moment, si t'es tellement convaincu que vous êtes fait pour être ensemble, que c'est la femme de ta vie, pour moi, d'un moyen ou d'un autre... Il y a soit des essais de communication, soit vous allez vous recroiser, enfin il y a quelque chose. Et pour moi, quand t'es juste accroché, c'est ce qu'il disait, mais c'est plus t'es accroché à l'idée de la relation, à l'idée de l'amour, mais pas vraiment la personne à proprement parler. C'est un peu une sorte de mirage. Et pour moi, même si peut-être que t'oublieras jamais ton premier amour, ça veut pas dire que c'est la bonne personne et que vraiment tu devrais te poser avec. Et il y a ce truc de, vu que c'est la première fois, il y a énormément de gens aussi qui ont peur de se dire, mais si... je quitte cette personne, je retrouverai jamais aussi bien, aussi mieux. Et c'est aussi pour ça que je trouvais le Reddit hyper cool et hyper intéressant, c'est que c'était que des gens du coup qui étaient un peu plus âgés et qui avaient un peu plus de recul, mais qui disaient, au final, on pensait tous ça, de se dire oui, on trouvera jamais mieux, aussi bien. Et à chaque fois, ils ont trouvé déjà, entre guillemets, beaucoup mieux, enfin en tout cas quelque chose qui correspondait plus à ce qu'ils voulaient maintenant. Il y avait un peu cette idée de se dire, mais tranquille, T'es jeune et peu importe ce que tu penses, peu importe la douleur, le sentiment, ce qui se passe, il y aura quelque chose d'autre derrière, qu'il y ait du temps ou pas, ou peut-être en mode vraiment tout va bien se passer. Et c'est vrai que sur le moment tu dis vraiment mais ça y est, c'est la fin du monde, même si pendant un mois tu vois pas quelqu'un, tu dis ça y est, c'est je vais finir seule et ça se trouve un mois après tu trouves quelqu'un. On a d'abord autant de témoignages de gens qui au final ont tous vécu la même chose plus ou moins et au final après ben voilà, ils ont trouvé quelqu'un, tout s'est très bien passé parce qu'ils ont attendu, parce que ça s'est bien passé, etc. Je sais pas, il y avait un peu un truc rassurant, parce que c'est vrai que souvent je trouve sur les Reddit, très vite ça peut être cette tendance de dire oui, bon, de toute façon, la vie, c'est de la merde, mais bon, des fois, t'as de la chance et tout. Enfin, des fois, les gens sont un peu aigris. Et là, franchement, sur Reddit, là, tout le monde était très gentil, good vibes, et a importé un peu des morales cute. Enfin, cute. Bon, vous avez compris ce que je veux dire. Pour finir, on va sortir une petite statistique, comme ça que j'ai écrit, pas trop développé dessus, mais j'ai juste envie de la sortir, parce que je la trouve fun. Je pense qu'on a tous connu ce couple qui ont rompu et qui sont remis ensemble. Ben, sachez que d'après une étude, je pense, basée aux États-Unis, seulement 2% des couples qui ont rompu et qui se remettent ensemble, ben, marchent réellement. Ce qui est un chiffre très bas, mais ce qui fait beaucoup de sens, hein, à mon avis, à part, évidemment, exception. Et pour compléter ce que je disais, évidemment, vu qu'on a 8 personnes sur 10 qui pensent que c'est mieux de pas continuer avec leur premier amour sur le long terme, on a 2 sur 10 qui, pour eux, ça s'est très bien passé. Je pense que c'est un cas plus rare, mais effectivement, il y avait des gens qui disaient, ben voilà, on a grandi ensemble, on a évolué ensemble, et c'est possible, et j'y crois. Mais je pense que juste quand tu commences à avoir quelque chose de, comme ça très jeune, à 17 ans, par exemple, et qu'à 17 ans tu te dis on grandit ensemble, on évolue ensemble, ça demande une telle maturité et tellement de communication et de choses qui généralement à 17 ans ne sont pas innées, ce qui fait que généralement ça n'arrive pas, mais franchement si ça arrive à des gens, je trouve ça très mignon et très cute. Je pense qu'on a fait le tour de la question, désormais. Alors voilà, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser une petite note de 5 étoiles, un petit commentaire, à partager le podcast autour de vous, et puis je vous dis à mercredi prochain à 6h pour un nouvel épisode. Bye!